RCF.
Et si c'était lui le Messie? C'est la question que se posent les personnages de votre récit, Lazare le Ravi, publié aux éditions du Cerf, Père Benoît Tinetti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Paris en mission à Lille. Et dans votre ouvrage, vous suivez Lazare au cours de ses différentes aventures, celle qui le ramène à la vie et celle qui fait poser la question à ceux qui l'entourent et à lui-même, cette question que vous dites insensée, et si c'était lui le Messie? Il voulait désormais suivre cet homme qui l'avait tant de fois appelé et il avait enfin entendu sa voix. Et si c'était lui le Messie? Est-ce qu'on en est convaincu? Est-ce qu'aujourd'hui on agit véritablement avec la réponse qu'on a eue de celle de sa résurrection?
Oui, c'est une question très forte parce que elle nous renvoie tous à nos propres pauvretés dans la réponse qu'on fait. On aimerait bien vivre en cohérence avec la réponse qu'on peut formuler en disant « oui, il est le Messie ». Parce qu'en disant « oui, il est le Messie », qu'est-ce que ça implique comme changement dans mon existence, pour parler catho, de comme conversion dans mon existence, voilà. Et on voit bien que voilà, c'est pas si simple que ça, hein, c'est pas si simple que ça. Mais c'est la seule question qu'on puisse se poser tous les jours et qui nous aide à vivre et à grandir, hein. C'est de se reposer la question, est-ce que je continue de croire que Jésus est bien le Messie, et quelles conclusions j'en tire bien concrètement dans ma manière d'être, de vivre, dans mes choix quotidiens, tout simple, hein. On est là où on n'est pas ailleurs, donc voilà, qu'est-ce que ça provoque?
Lazare, d'ailleurs, on le voit se mettre au soleil, il a le soleil qui brille et il vit ce regain de vie. Et au fond, c'est là aussi où il se pose la question, après tout, ce regain de vie, il peut venir du soleil. Est-ce qu'on n'a pas aussi ces tentations de trouver qu'au fond, cette vie, elle nous est donnée par tant d'autres choses que par le Christ?
Oui, mais à travers ces médiations, c'est le Christ qui opère. C'est-à-dire que Dieu nous aime et manifeste sa présence à travers les médiations que sont les hommes et les femmes qu'on croise au quotidien, les paysages qu'on contemple, en fait à travers la vie qui irrigue l'univers et qui fait que tout ça existe. Voilà. Et la médiation par laquelle Dieu passe pour se communiquer à nous, c'est la vie, tout simplement.
Dans votre récit, on voit c'est les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, qui insistent et qui deviennent presque un peu encombrantes pour ceux qui les entourent, parce que elles parlent de Dieu au présent, elles veulent qu'il soit toujours mêlé aux conversations, et c'est une façon de rendre présent le Christ aussi.
C'est une manière un peu humoristique aussi de présenter la toute primitive Église après la Pentecôte, où on voit bien qu'on imagine qu'entre les uns et les autres, bon, il y avait un côté formidable, fraternel, c'était formidable, le livre des Actes des Apôtres nous le montre, mais il laisse entrevoir aussi, ce même livre des Actes des Apôtres, que ce n'était pas si simple non plus, et que l'humanité, elle reste l'humanité, même chez les amis de Jésus, et que Marthe et Marie et Lazare, ils avaient peut-être une place un peu à part, et que Marie, c'est quand même celle à qui Jésus s'est manifesté la première quand il était ressuscité, donc c'est elle qui est allée apporter la bonne nouvelle aux apôtres, donc c'est l'apôtre des apôtres, c'est pas rien, c'est une femme, donc c'est quand même compliqué pour les apôtres d'accepter qu'une femme ait l'antériorité de la bonne nouvelle par rapport à eux, donc forcément ça peut agacer, surtout quand cette femme le leur rappelle en permanence et qu'elle dit qu'elle aimait Jésus, qu'elle aime Jésus, etc. Lazare, c'est celui qui a été ressuscité, donc c'est évident, il avait une place forcément un peu symbolique et sans doute qu'il en jouait aussi, donc ça provoque des jalousies, ça provoque des tensions. Puis à un moment donné, où ceux qui essayent d'organiser des choses, les éléments qui sont un peu forts en gueule, si vous voulez, ils gênent, quoi. Et donc on les vire. Voilà, on leur dit, il faut partir, il faut aller ailleurs. Et c'est ce que font. Alors ça, cet épisode-là, il est raconté par la légende dorée écrite au Moyen Âge, qui raconte les premiers temps de la vie apostolique et qui dit, pour le coup, c'est même assez fort, hein, que les sœurs de Lazare étaient tellement, en gros, exaspéraient tellement les apôtres que ils les ont mises avec leurs frères sur une barque, sans rame, sans gouvernail, et hop, vogue la galère, et puis ils se retrouvent à Marseille, quoi. Voilà. Donc, alors, tout ça est un peu légendaire, mais je trouvais que c'était pas, tout ça n'est pas totalement dénué d'une certaine humanité probable.
Voilà. Alors, cette nuance, on la retrouve aussi dans le récit que vous faites du repas, de la scène, en fin de compte, parce que la scène, c'est à la fois le Christ maître et serviteur, mais c'est aussi le repas de la trahison. Et cette nuance, vous la portez aussi, finalement, sur ce qu'est le christianisme aujourd'hui et sur ce qu'il n'est pas.
Ben, le christianisme, il est... peut-être que ça va être compliqué à accepter pour certains d'entre ceux qui nous écoutent, mais pour moi, le christianisme n'est pas une religion. Je veux dire que le christianisme est d'abord un message. Voilà. Un message qui est porté à l'humanité, de l'amour de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ et du salut qui nous est apporté par cet amour. Voilà. Et qui est offert à tout homme. Voilà.
C'est étonnant, vous dites c'est un message, vous ne dites pas c'est une rencontre, c'est une personne.
C'est un message qui vient d'une rencontre, c'est-à-dire qu'il est porté par ceux qui ont rencontré celui qui est ce message. Le Christ est le message en quelque sorte. Oui. La bonne nouvelle, c'est le Christ, si vous voulez. Et cette bonne nouvelle, elle est portée au monde. Nulle part dans les évangiles, Jésus ne crée une religion nouvelle. Jamais. Il est juif, ses apôtres sont juifs, ses disciples sont juifs, et les premiers chrétiens, qui ne s'appelle d'ailleurs pas chrétien avant l'arrivée à Antioche, les premiers chrétiens sont tous juifs, principalement. Donc, ils n'ont pas le sentiment de lancer une nouvelle religion, mais d'accomplir l'espérance d'Israël. Ils continuent à aller au temple, à pratiquer les fêtes juives, etc., à lire la Torah, etc., etc. Donc, et Jésus n'institue pas un clergé, un laïcat, etc. Pas du tout. Nulle part dans la Bible, il y a ça. Ça, c'est par la suite que la structuration de l'institution, elle se forge comme ça, elle se bâtit comme ça, et avec nécessité, il faut bien s'organiser, si vous voulez. Mais à l'origine, le christianisme n'est pas une religion nouvelle, il est l'accomplissement du judaïsme, et il est un message qu'on porte aux nations, aller par toutes les nations, proclamer l'évangile. C'est ça que Jésus dit à ses apôtres, il leur dit pas aller construire des églises. Il se trouve que, humainement, on a compris à un moment donné de l'histoire que pour pouvoir annoncer l'évangile, il fallait construire des églises. Donc on a construit des églises. Mais donc on a organisé la transmission de ce message sous un mode religieux, si vous voulez. Mais ça ne fait pas du christianisme une religion comme les autres. À mes yeux, ça n'est pas le cas. Et la grande erreur de beaucoup de chrétiens, elle est de considérer que le fait d'être chrétien les fait appartenir à une religion comme d'autres appartiennent à une religion. Et donc à vouloir agir dans le monde, dans la défense et dans la promotion de leur religion. Alors que le christianisme est précisément l'élan dans lequel tous les hommes et les femmes qui sont touchés par la bonne nouvelle sont invités à entrer pour porter le message, pour manifester ce message. Mais voilà, l'institution ne saurait enfermer le message et ne saurait à elle seule le contenir. L'Église, elle le voit bien, qui ne cesse d'ailleurs de se transformer au cours des siècles, parce qu'elle a bien conscience que ce message qu'elle porte est bien plus grand qu'elle et qu'elle ne peut jamais épuiser ce message. Et donc elle se laisse travailler par ce message-là pour modifier ses structures, ses habitudes, son droit, son organisation.
On vous sent vigilant en tout cas dans ce livre et puis dans vos propos à ne pas laisser l'ordre prendre la place du risque de l'esprit, du risque de la vie en quelque sorte.
Non, parce que si on est dans une société qui n'est que légaliste, à ce moment-là, on étouffe la grâce. C'est-à-dire qu'en fait, on tombe dans le piège dans lequel sont tombés dans l'évangile les pharisiens et les docteurs de la loi et les prêtres du temple. En fait, qui veulent tout maîtriser. C'est-à-dire qu'ils décrètent que désormais Dieu doit agir comme on le somme d'agir. Et donc, il ne peut pas agir autrement que comme il a dit qu'il agirait. Donc, il agit comme ça, point barre. Voilà. Et c'est nous qui déterminons si Dieu agit ou si Dieu n'agit pas. Quelle folie!
En tout cas, vous évoquez aussi cette religion qui muselle la conscience d'un peuple pour lui faire admirer des veaux d'or. Alors là, on ne parle pas du christianisme, mais vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, des courants ou peut-être des pensées viennent peut-être museler ce qui, en l'homme, doit rester libre.
Toujours, toujours, toujours dans l'histoire, le religieux a été tenté, toujours. C'est une tentation naturelle du religieux d'être tenté de museler. Parce que, comme toute institution humaine, et les religions n'échappent pas à cette difficulté-là, il y a cette tentation d'omnipotence, de toute puissance, voilà, et donc de gouvernement des esprits. Voilà. Donc ça, c'est une tentation. En fait, c'est pas grave d'être tenté. Le tout, c'est de le reconnaître, de le savoir, et de savoir comment résister à cette tentation et lutter contre elle. Enfin, moi, ça n'empêche pas ces tentations d'exister. Elles existeront toujours. Elles sont liées même au sens religieux, à la question de Dieu. C'est-à-dire que dès lors que moi, je vous dis je crois en Dieu, ma tentation, elle va être de vous imposer ma croyance et de vous démontrer que votre sentiment est totalement nul par rapport à mon sentiment à moi. Voilà. C'est ça la grande tentation. Une fois que je le sais, ben, je peux m'en libérer.
Vous évoquez aussi le fait que les paroles de Jésus n'empêchent pour autant pas de somnoler. Pour terminer cette émission, qu'est-ce qui peut nous tenir éveillés? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de dormir? Qu'est-ce qui peut nous éviter de retourner dans le caveau et d'être assis à côté de Lazare qui est dans cette grotte froide et humide?
D'avoir un peu d'humour sur soi-même. Je pense que ce que vous évoquez là, en fait, c'est, pour moi, c'est toujours des pages d'évangile qui m'ont beaucoup touché parce qu'on voit dans l'évangile de Saint Matthieu, par exemple, il y a les grands discours de Jésus, quand même, eschatologiques sur la fin des temps. C'est ce grand jugement, venez près de moi, vous qui, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, etc., etc. Toutes ces paroles-là, les paraboles des vierges sages, des vierges folles, la parabole, toutes ces paraboles-là, tous ces discours-là, Jésus les prononce dans l'évangile de Matthieu. Juste avant sa passion, il est assis sur la colline face au temple, il contemple le temple avec ses disciples et leur dit ça. Et moi, j'imagine très bien que dans les disciples qui écoutent, au bout d'un moment, au bout d'une heure, quoi, il y en a qui disent, en fait, j'ai faim, je suis fatigué, je somnole, oui, c'est très gentil tout ça, mais en fait, qu'est-ce que tu veux nous dire de tout ça? On comprend rien, tu nous fatigues, tu dramatises trop. Mais forcément. Et donc, c'est cette humanité-là qui est magnifique, parce qu'en fait, c'est ce qu'on vit, nous. Ouais. Regardez les gens à la messe. Et les gens à la messe, ils écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent, puis ils disent, ouais, c'est bien. Enfin, en même temps, on n'a rien retenu. Et en même temps, on sent bien que ça nous touche, mais en même temps, c'est fatigant, on comprend pas tout, etc. En fait, avoir suffisamment d'humour et croire que rien de nos fatigues, de nos somnolences et même de nos reniements ne suffisent à décourager le Christ de continuer à nous parler.
Merci beaucoup, Père Benoît de Sinetti. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Paris en mission à Lille, aumônier du département international des scouts et guide de France. Et vous évoquiez avec nous votre dernier ouvrage, Lazare, le ravi, aux éditions du Cerf. Merci à vous.
Merci beaucoup.